Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Troisième temps de notre série que nous consacrons à l'Iran à l'occasion des 40 ans de la République islamique. Lundi, nous mesurions la solidité du régime. Mardi, ses difficultés économiques. Aujourd'hui, c'est la vie quotidienne des Iraniens, des Iraniennes, tiraillés entre la loi islamique et la modernisation sociale qu'il nous faut observer. Négocier l'émancipation, une lutte sans fin, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Lors de la révolution islamique, les femmes ont joué un rôle incomparable et il est nécessaire pour elles de poursuivre ce rôle.
Nous, les femmes, nous avons eu des martyrs comme les hommes. Nous avons lutté avec le voile et sans voile pour notre liberté et pour celle du peuple. Et si Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma religion.
Il s'agit pour les femmes de préparer et d'encourager leurs maris et leurs enfants à faire face au monde hostile qui les entoure.
Nous parlons pour notre droit. Nous parlons pour notre droit égalitaire avec les hommes. Et nous pensons, si nous ne parlons pas maintenant, quand la Constitution sera écrite, ils ne nous accorderont plus rien.
À l'époque où nous combattions pour notre doctrine en Iran, après la victoire de la révolution islamique, et ce jusqu'à aujourd'hui, nous avons clairement constaté la signifiance du rôle que les femmes ont joué.
Voilà, petit va-et-vient entre un récent discours de l'ayatollah Khamenei en 2012 sur la place et le rôle des femmes dans le projet révolutionnaire et quelques paroles de femmes iraniennes qui, quelques semaines après le retour de son prédécesseur Khomeini à Téhéran en 1979, descendaient dans la rue pour défendre leurs droits. Malgré la rigidité des normes religieuses, politiques ou sociales qui régissent l'espace public, la société iranienne a su créer, occuper des interstices vacants, devenus autant de lieux de revendication, voire de contestation. La rue d'abord, qui chaque jour accueille nombre de manifestations, mais aussi le jardin, la mosquée, la voiture, le restaurant, la salle de sport, jusqu'au logement privé évidemment, où les réunions en tout genre sont autant d'occasions d'affirmer une individualité émancipée. La société iranienne, semble-t-il, se modernise beaucoup plus rapidement que son encadrement institutionnel et ne cesse de repousser les limites de la censure et du contrôle social. Les femmes, dont le voile est bien le symbole paradoxal à la fois de leur présence dans l'espace public et de leur soumission aux règles patriarcales, sont en pointe de ces évolutions et au cœur de l'articulation difficile entre le privé et le public, l'intime et le politique, jusqu'à risquer peut-être une forme de schizophrénie. Alors quel bilan peut-on faire de leur influence grandissante dans le champ sociopolitique? Comment la place et le rôle des Iraniennes ont-ils été négociés avec les autorités depuis l'avènement de la République islamique? Quels sont les nouveaux lieux à conquérir, les nouvelles frontières de l'émancipation sociale? Et va-t-on inexorablement vers un assouplissement du contrôle politique et religieux? Un assouplissement qui serait la condition nécessaire au maintien du régime. Pour évoquer toutes ces questions, d'abord, Fariba Adelka, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, auteur de très nombreux ouvrages. Je mentionnerai Les Mille et Une Frontières de l'Iran, quand les voyages forment la nation, c'était chez Kartala, mais aussi plus récemment, Les Paradoxes de l'Iran. Je crois que c'était une deuxième édition chez Cavalier Bleu. À vos côtés, Armin Arefi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, journaliste au Point, ancien correspondant à Téhéran. Vous avez passé plusieurs années sur place avant de partir en 2007 pendant presque 10 ans et puis d'y retourner en 2016 beaucoup plus récemment. Et vous êtes l'auteur justement d'un livre qui est un peu le fruit justement de ce retour en Iran, Un printemps à Téhéran, La vraie vie en République islamique. C'était paru chez Plon. Fariba Adelka, le port du voile que j'ai évoqué dans mon introduction avait été évidemment l'un des grands faits marquants de la révolution de 1979. À l'époque, il était présenté comme un facteur de libéralisation des femmes, de libération des femmes. C'est par le port du voile, au fond, qu'elles pouvaient désormais accéder à l'espace public et porter des revendications. Assez vite, le voile devient une obligation parce que le corps des femmes est alors considéré comme une menace pour le nouveau pouvoir. On se souvient notamment de ce discours fondateur de février 79 de l'ayatollah Khomeini qui avait dit notamment « Chaque fois que dans un autobus, un corps féminin frôle un corps masculin, une secousse fait vaciller l'édifice de notre révolution ». Rien que ça. Vous rappelez dans votre livre Fariba Adelka que en réalité l'obligation du port du voile n'est d'ordre ni constitutionnel ni législatif. Aucun texte, dites-vous, ne le rend obligatoire ni ne précise la forme du hijab.
Puisqu'il n'y a pas de loi, puisqu'il n'y a pas de règles sur le port du voile, alors comment est-ce qu'il s'est imposé et comment est-ce qu'on a négocié la manière dont il convenait de bien porter le voile ?
Bon, c'est ça les paradoxes, peut-être le côté très... à cause des revendications hétérogènes et contradictoires du début de la révolution. Et puis, on ne voit pas un peu le processus dans lequel s'est inscrit effectivement la question du hijab. Il faut avant dire qu'il était une obligation, puisque, comme vous l'avez très très bien dit, il n'y a pas de texte. Et ensuite, ces textes étaient très tardifs. Ce qui est quand même important avant cette date, c'est que l'imam Khomeini a pris la défense des femmes et il est allé contre l'avis de clergé. Et il a posé la question du vote des femmes, le fait qu'ils soient élus et qu'ils votent. Et au sein de l'Assemblée des experts, aux premières assemblées, au temps de l'imam Khomeini, il y a aussi une femme. Ça veut dire, en fait, elle est considérée au même niveau que les autres clercs. Et pour dire qu'on est en temps dans la période révolutionnaire, et donc la question des femmes, c'est une des questions importantes et clés qui, à côté de laquelle on pose d'autres questions, parce qu'en fait, on se recroqueville sur la question féminine, on ne se rend pas compte que finalement, il y avait aussi la demande d'une réforme agraire. Et toutes ces choses-là m'amènent à dire qu'on a des ayatollahs qui reposent, révisent toutes ces questions des lois religieuses d'une autre façon. Donc, l'obligation, personne ne le soutient encore aujourd'hui. En fait, c'est la grande faille. C'est que la République islamique, en légiférant sur le fiqh, ça veut dire... le fiqh, en fait, c'est le droit islamique. Mais le droit islamique, c'est un champ de débat. Ce n'est pas ce n'est pas quelque chose figé un jour pour de bon. Et l'apport de l'imam Khomeini, c'est justement poser la question de l'espace-temps qui influe sur le devenir des pratiques, sur le devenir d'interprétation des lois islamiques, etc. Donc si on prend maintenant ce champ de débat du début de la révolution, on comprend un peu mieux le problème d'aujourd'hui, c'est que la révolution, elle a été un moment d'expression de liberté pour tout le monde. Le hijab, c'était l'accès à l'espace public dans un premier temps. C'est quand même symbole d'un pouvoir anti-monarchique, anti-occidental. Donc, ça posait la question des libertés en face des étrangers, de l'Occident. Ça posait la question de liberté en face du pouvoir monarchique. Et ça posait la question de liberté, intimité des femmes. Donc, la question d'obligation est venue complètement contredire ce processus. Et c'est devenu un terrain aujourd'hui dans lequel les femmes se battent, pas seulement contre la République, mais pour la revendication de leurs propres droits. D'une certaine façon, et je vais être rapide, tous ces débats qui limitent le champ d'intervention des femmes est devenu une opportunité, enfin la discrimination, on peut le dire rapidement, est devenu une opportunité d'une présence très importante des femmes sur la scène politique et donc de la mise en cause de la République islamique qui effectivement transgresse un peu le cadre de l'intimité, ce qui relève de l'intime.
Vous écrivez dans votre livre, ce sont les administrations, le bazar et la pression des gros bras des courants les plus radicaux du mouvement révolutionnaire qui ont de facto imposé le port du voile à la demande de Khomeini. Aujourd'hui, Armin Arefi, effectivement, on assiste peut-être à une montée en puissance de ce mouvement de remise en cause du voile, avec des femmes qui protestent même dans la rue, cheveux au vent, avec des photos et des vidéos qui sont relayées abondamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous diriez, vous, à l'aune de votre expérience, qu'il y a effectivement aujourd'hui une montée en puissance de ce rejet du voile, ou est-ce que finalement ce ne sont que les réseaux sociaux, précisément, qui créent une forme de caisse de résonance qui agit comme un miroir grossissant ?
Alors moi, ce que je peux dire, c'est que quand je vivais en Iran en tant que correspondant il y a de cela 12 ans, la question du voile était importante, c'est-à-dire qu'une majorité des Iraniennes que je côtoyais, notamment dans les grandes villes, il faut le dire, étaient opposées à ce port du voile, mais pour elles, ce n'était pas la question la plus importante. Il y avait des difficultés bien plus importantes à leurs yeux, comme les questions d'ordre social, politique notamment, c'est-à-dire le fait que les libertés fondamentales, dont le voile fait certes partie, mais comme par exemple le droit de vote, la liberté d'expression, soient respectées. 10 ans plus tard, quand j'ai pu y remettre les pieds, ou plutôt j'ai été autorisé à y remettre les pieds du jour au lendemain, cette question du voile est devenue un instrument de la contestation contre le régime dans son ensemble. Il est devenu extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers cette campagne qui s'appelle « Les instants éphémères de liberté » qui a été instigée depuis l'étranger par une militante et journaliste qui s'appelle Massie Alinejad, on a cru au départ justement à quelque chose, il y aura un épiphénomène. Et puis, très rapidement, ça s'est imposé comme un véritable fait de société, même s'il ne s'agit que d'une minorité d'Iraniens, mais une minorité d'Iraniens aujourd'hui qui ose tomber le voile, si je puis dire, et se photographier avec, à visage donc découvert, et le publier sur les réseaux sociaux. Donc, c'est devenu un véritable phénomène de société qui, au départ, à mon sens, était un épiphénomène, mais qui aujourd'hui embête considérablement les autorités islamiques iraniennes, de sorte qu'elles ont été obligées de condamner à de lourdes peines les contrevenantes, des peines de prison de plusieurs années, des exils forcés à l'étranger, mais également condamner pour ces raisons les avocates qui les défendent, dont l'illustre avocate Nasrin Sotoudeh. Et aujourd'hui, la grande différence par rapport à il y a 10 ans, 12 ans, et je ne parle même pas des premières années de la Révolution, c'est que le voile tombe sur les épaules de beaucoup d'Iraniennes dans la rue, dans des parcs. Moi, je vois toute cette génération d'Iraniennes nées après les années 90 qui a beaucoup moins peur des autorités et du regard de la famille et des traditions que leurs aînés et qui osent tomber le voile dans l'espace privé, bien évidemment, mais ça fait très longtemps, mais également, surtout dans l'espace public, aujourd'hui dans les voitures, considérant que c'est un espace privé, dans les grandes villes, j'insiste, beaucoup d'Iraniennes tombent le voile, on assiste souvent au voile tomber sur les épaules. Donc c'est par cette manière-là, auparavant c'était par exemple le maquillage ou les mèches de cheveux qui dépassaient, mais par cet instrument-là, on assiste à une contestation en Iran qui existe contre le régime islamique.
Il y a même des femmes qui se rasent totalement la tête justement pour éviter qu'on leur reproche d'avoir des cheveux qui dépassent. Mais, et là on arrive peut-être au cœur d'un des très nombreux paradoxes en Iran, parce que vous dites, et vous avez raison, que des femmes ont été arrêtées pour avoir précisément retiré leur voile dans l'espace public, sauf qu'il y a aussi un mouvement inverse, c'est-à-dire, on a vu l'année dernière une vague de contestation sociale très importante, et qui s'illustrait notamment à travers ces actions de femmes qui descendaient dans la rue en retirant le voile. Et il se trouve que la police de Téhéran a annoncé un assouplissement de la réglementation encadrant le port du voile, annonçant que désormais, les femmes se montrant avec un voile non conforme, ne seraient plus précisément arrêtées et placées en détention. Comment interpréter cette décision, là aussi, qui est un peu paradoxale? Et est-ce que ça veut dire que, puisque précisément, nous dit Armin Arefi, c'est devenu aujourd'hui vraiment un élément dans lequel se cristallise une contestation sociale et politique beaucoup plus large, qui va au-delà de la question du voile, eh bien, les autorités doivent, j'allais dire, donner un peu plus de liberté précisément sur cet élément-là, au risque sinon de produire une contestation encore plus forte, Fariba Adelka?
Si vous voulez, les réseaux sociaux ont complètement changé la donne. Je crois que c'est les photos. Personne ne peut désormais contrôler. Vous parlez dans votre livre d'ailleurs de 30 millions d'internautes, donc il y a des gens qui sont maintenant sur Telegram. Donc ça, je crois que c'est un domaine tout à fait à part. Le régime ne le considère pas comme faisant partie du public. C'est public, puisque tout le monde le voit, mais c'est un public, un espace un peu particulier. Je ne rentre pas dans les considérations
du régime. Le cyberespace n'est pas un espace public du point de vue des autorités iraniennes.
Non, ce n'est pas sur la rue. Donc en la rue qui est sur laquelle il intervient.
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais dans le sens où il y a quand même eu, par exemple, on a cette fameuse Maëdé, cette danseuse iranienne qui dansait, alors non seulement sans voile, mais j'irais avec montrant son nombril sur le réseau social Instagram, qui est extrêmement utilisé par la population iranienne et notamment sa jeunesse majoritaire dans le pays. Et il y a aujourd'hui en Iran une cyberpolice liée à la police. Il y a également une cyberpolice liée aux gardiens de la Révolution, qui réprime et fortement. Cette fille a été quand même obligée d'aller à la télévision confesser avoir été trompée pour, d'une certaine manière, présenter ses plus plates excuses. Mais moi, justement, ce qui m'a marqué par rapport à l'Iran, entre justement mes deux voyages, c'est que je suis arrivé à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran en 2016, du jour au lendemain, et là, qu'est-ce que je vois? Tous les Iraniens qui ont le smartphone ultra connectés, même ceux qui viennent des milieux, je dirais, les plus populaires, et qui ont accès donc à la 4G, qui est omniprésente dans le pays, et qui, malgré la censure, car certains sites sont censurés, peuvent aller sur Telegram, en discuter politique, échanger de nouvelles politiques. Ça, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau par rapport à il y a 10 ans. Draguer sur Instagram, alors il n'y a pas Tinder en Iran uniquement pour les expatriés, en revanche, il y a Instagram, et
la facilité avec laquelle il est possible de rencontrer le sexe opposé, y compris à un âge très, très, très jeune de 17, 18 ans, est déconcertante. Donc, moi, je trouve que les Iraniens, aujourd'hui, ont trouvé la parade avec ce cyberespace qui, par rapport à ce que vous affirmez, gêne, d'une certaine manière, les autorités.
Fariba Adelka. Sur ce cyberespace, alors oui. Espace de liberté ou espace à nouveau de négociation sur lequel effectivement il y aurait désormais un contrôle des autorités.
Plutôt l'espace de négociation, ouais. Mais bon, si vous voulez, moi je dirais qu'aussi à partir du voile, il va y avoir une contestation de pouvoir au bout de 40 ans. Je dis bravo, mais simplement regardons sur les 40 dernières années ce qui s'est passé. Et aucun mouvement politique, aucune partie est venu défendre la question de droit à la liberté des femmes à s'habiller comme elles veulent. Je veux dire, le mouvement de la réforme n'a absolument pas posé la question de la liberté de s'habiller, pour les femmes. Enfin, la question du voile n'a pas été posée par le mouvement de la réforme. Aucun autre mouvement. Et puis maintenant, regardons ce qui s'est passé, puisque vous vous appuyez sur ce qui s'est passé récemment, les femmes qui mettent leur voile au bout d'un bâton et qui restent comme ça, sans voile, debout sur l'avenue de la Révolution. Et j'aimerais savoir le mouvement qu'ils ont mobilisé. On aurait pu penser que c'est absolument révolutionnaire. Ça veut dire, c'est un peu le mouvement de pain en Tunisie. Ça allait permettre, créer tout un remue-ménage de l'ensemble de la société, et puis tout le monde allait s'allier derrière cette contestation. Et puis non, rien du tout. Il y en a eu un premier, un mois plus tard, une deuxième, et puis quelques temps plus tard, une troisième, et puis ça s'est arrêté. Et puis, non, attendez, si vous voulez m'en parler de la répression, je veux bien. La République islamique n'est pas du tout un État démocratique. Simplement, pourquoi est-ce qu'il est si facile de parler de statut de guide de la révolution, qu'il n'y a pas ligne plus rouge que ça dans la République islamique, et qu'il n'est pas possible de parler du voile des femmes? Tout simplement. Donc, moi, je ne dis pas que ce que vous dites, ce n'est pas vrai ou ce n'est pas fondé. Je dis que c'est beaucoup plus compliqué le rapport au voile. Justement, 4 décennies, ce qui s'est précédé avant, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est une question d'intimité des femmes. Si les femmes aujourd'hui s'opposent au voile, ce n'est pas qu'ils s'opposent à la pratique islamique. Ils s'opposent à cette obligation qui enlève leur droit à la liberté, puisque le titre est ça, négocier sa liberté. En fait, vous savez qu'à l'intérieur de Hosé, le clergé, Hosé, ça veut dire les écoles religieuses de Rome. Le Rome, ce n'est pas en Italie, c'est en Iran, donc c'est la ville la plus religieuse. À l'intérieur de cette ville, où se situe le nombre le plus important des écoles religieuses, le clergé iranien est complètement opposé à ces légiférations par le régime des droits qui relèvent du faire et qui effectivement posent la question de relation de l'individu au transcendant. Maintenant, la relation de l'individu, au lieu de se poser par rapport au transcendant, passe par rapport à l'État. Ça veut dire que vous avez tout cet arsenal de répression ou de punition, etc., qui n'ont pas le fondement religieux et que le clergé, notamment par exemple l'ayatollah Surush et Mahaloti, ne défend absolument pas ça et regrette que finalement toute cette évolution de principe de faire devenu principe étatique empêche de penser la relation au transcendant au détriment de la relation au transcendant. On pense maintenant la relation à l'État et comment se comporter.
Armin Arefi, je vais vous laisser répondre, oui. Et puis ensuite on quittera la question du voile, parce que c'est pas un sujet seulement sur le voile, mais sur l'émancipation. Et évidemment, le voile fait partie du sujet, donc il est incontournable, mais on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Armin Arefi.
Mais moi je pense que effectivement la question du voile est très intéressante. Moi, pendant longtemps, en couvrant l'Iran, je me disais, bon, le voile est une question, c'est un peu un des symboles de la République islamique, c'est une des, justement, une des interdictions qui a été, en tout cas, le fait de. Enfin, l'obligation plutôt, prononcée par l'ayatollah Khomeini, et qui est devenue une sorte de symbole de la République islamique, d'ailleurs, au sein même du régime, parmi les courants les plus réformateurs. Il y a certaines voix, pas publiques, mais je sais qu'il y a certaines voix, justement, qui aimeraient que cette obligation de porter le voile disparaissent peu à peu. Maintenant, par rapport à ce qu'on a dit, moi je pense que ça s'inscrit justement dans un contexte global qui est celui de l'émancipation et de la pression qui est exercée sur la société iranienne, jeune et moderne. Vous avez parlé tout à l'heure de cet assouplissement, pseudo-assouplissement prononcé par le chef de la police à Téhéran.
Moi j'ai dit assouplissement, j'ai pas dit pseudo-assouplissement.
Alors, moi, je
officiellement,
parle...
c'est comme ça que ça a été présenté.
Le problème c'est que, donc vous avez parlé d'assouplissement. Ce qui est intéressant c'est que ces annonces
il y en a toujours. On a des annonces justement assez positives, assez négatives, mais en fin de compte, je dirais, la réalité... Alors déjà, première chose, elle s'inscrivait, en fait, mon impression, c'est qu'elle s'inscrivait dans une sorte de jeu régional de libéralisation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On assiste en Arabie Saoudite depuis 2 ans à l'arrivée d'un prince qui a beaucoup de défauts, qui est autoritaire, mais qui a décidé, par certains aspects, de libéraliser certaines mœurs, comme autoriser les femmes à conduire, même si derrière, il en a arrêté beaucoup. Mais là-dessus, les Iraniens, la République islamique, dont la société est quand même beaucoup plus avancée et moderne que celle en Arabie Saoudite, s'est dit qu'il fallait réagir. Maintenant, pour revenir à la question du... Mais il n'y a pas eu, dans les faits, un avant et un après.
Oui,
c'est-à-dire que ça fait maintenant 20-25 ans qu'on assiste à un jeu du chat et de la souris entre le régime et sa police des mœurs et la jeunesse, qui chaque début d'été relâche le voile. C'est vrai que quand c'est quand même assez incroyable de voir en Iran la façon dont est porté le voile, très mal par beaucoup d'Iraniens, à savoir des mèches de cheveux qui partent dans tous les sens. C'est devenu parfois même un instrument, pour certaines catégories de la population, un instrument de mode. Mais par exemple, comparé à un pays comme l'Égypte ou la Jordanie, où là le voile n'est pas obligatoire.
Oui, on peut le jeter un peu négligemment sur les épaules, just in case, c'est-à-dire juste c'est-à-dire au cas où Iran, on fasse une mauvaise rencontre.
Pour résumer, en Iran c'est obligatoire, mais il est mal porté. Dans les pays comme la Jordanie ou l'Égypte, c'est pas obligatoire, mais quand il est porté, il n'y a pas une seule mèche de cheveux qui dépasse. Donc on a vraiment une contradiction entre les lois de la République islamique et la pratique de la société.
Fariba Adelka.
Oui, mais en attendant, je ne sais pas où sont le mouvement politique qui aujourd'hui se revendique de cette, disons, l'opposition. Ouais. Juste, j'ajoute, c'est que vous avez parlé d'assouplissement, et c'est vraiment très intéressant, l'assouplissement des de regard des services de d'ordre un peu dans la société iranienne à l'égard des femmes. Il faut savoir que dans toutes ces familles aujourd'hui, les gardiens de la révolution, c'est qui, ou l'agent de l'ordre, c'est qui, ils ont tous des enfants qui ont des pratiques plus ou moins proches à ça. Je veux dire que les pratiques ont changé énormément, et ça dépend dans quelle ville vous êtes. Et donc ces gens-là, ils ne veulent pas aller à l'encontre de la pratique de leur famille, premièrement. Deuxièmement, finalement, s'accrocher à des petites jeunes à cause de cette petite mèche, puisque Almin l'a utilisée, ça rapporte pas gros. S'occuper finalement de la sexualité des femmes, ça rapporte pas gros. Mais pour ces services hors de s'occuper de la question de drogue ou sécurité des frontières, ça rapporte quelque chose. Je veux dire, c'est pas très honorifique pour ces services d'ordre de s'accrocher tous les jours à des femmes. Donc c'est contre-productif aussi à l'intérieur.
Fariba Adelka, pour prendre aussi peut-être un peu de profondeur historique, juste après le changement de régime, le droit des femmes va connaître un certain nombre de reculs très significatifs, et notamment avec l'abrogation de la loi sur la protection de la famille. On va baisser l'âge du mariage, on va retirer le droit des femmes au divorce, on va réduire la valeur du témoignage d'une femme, etc. etc. L'idéologie révolutionnaire, Fariba Adelka, elle visait bien sûr à confiner les femmes dans l'espace public, dans le foyer, dans l'espace de la famille, sauf que assez vite, quand on regarde les choses, les événements vont les pousser dehors. Il y a la guerre Iran-Irak dans les années 80 qui va en fait immédiatement faire qu'on va avoir besoin des femmes, notamment pour aller travailler. Donc en réalité, les circonstances vont dès le départ les faire sortir de l'espace privé dans lequel on cherchait à les enfermer.
Tout à fait. Mais je veux dire juste la question du début de la révolution. Les revendications étaient un peu plus complexes tout au début. Je crois que c'est ce qu'on peut entendre derrière tous ces limites que vous venez de souligner, qui est d'ailleurs très très juste. C'est la revendication de haq, la notion sur laquelle a travaillé Farhad Khosrowshahrval beaucoup. C'est une notion très polysémique et pose la question de liberté d'individu. Simplement, comme Foucault le disait, c'est la spiritualité politique. Il n'y a pas de cadre institutionnel ou cadre politique qui aurait pu le résumer. Derrière toutes ces lois qui ont été du jour au lendemain interdites, à aucun moment la société iranienne a pensé perdre ses droits. Simplement, la révolution iranienne est devenue très vite la guerre. Les gens qui parlent de ce temps-là confondent souvent la guerre et la révolution. Donc, on voit très bien que dans leur tête aussi, dans la mémoire qu'ils ont de cette période, il y a cette confusion. Il y a eu un très grand moment d'anarchie, de désuétude, de l'absence d'équilibre. Et les gens, d'où la raison pour laquelle les gens se sont trouvés un peu beaucoup plus par rapport à l'imam Khomeini, se sont trouvés autour de lui. Parce qu'en fait, cette situation révolution avec tous ces mouvements plus la guerre ne donnait pas de prise sur la réalité. Donc d'où finalement l'importance de l'imam Khomeini par la suite. Donc ça, c'est en premier lieu. Et deuxième, vraiment, si vous regardez tous les livres qui ont été publiés au début de la Révolution, la question de droit de femme est première. Simplement, toutes ces questions se sont arrêtées avec la guerre. La guerre
Et est-ce qu'elles sont revenues justement sur le devant de la scène au moment de la fin, de la guerre Iran-Irak? Est-ce que on a assisté à la fin de la guerre Iran-Irak à une forme de recul du droit des femmes? De facto, pas seulement le droit, mais par exemple, est-ce que l'accès à l'espace public a été restreint au moment de la fin de la guerre?
Non, tout le contraire. Avec libéralisation de Rafsanjani, c'est tout le contraire qui s'est arrivé. Mais simplement, je veux dire, Shirin Ebadi a bel et bien eu le prix Nobel de la paix parce que lui, elle posait la question des discriminations de façon beaucoup plus directe, en fait. Question de d'âge de mariage, etc. Effectivement, les gens disaient à l'imam Khomeini, vous avez mis en cause les lois qui étaient votées sous le régime, quid des droits des femmes. Donc, d'une certaine façon, toutes ces questions sont revenues et jusqu'à aujourd'hui. Simplement, nous avons deux temps dans la révolution iranienne, dans la République islamique. Le premier temps où il y avait l'imam Khomeini, où il avait cette capacité, puisque c'était lui autour de qui les gens s'étaient retrouvés. Il était il était pour le changement parce que la révolution islamique était une révolution tiers-mondiste. Donc, la question de réforme agraire, la question de voile des femmes, la question d'espace-temps dans le débat de juridiction religieuse, etc. Et puis, la nécessité de l'importance de l'État dans toute cette évolution. Parce que l'imam Khomeini mettait en avant la priorité de l'État sur les principes religieux. Ça veut dire si l'État se sent en besoin de transformer un débat religieux, il peut, il a tout à fait le droit, si vous voulez. Mmh. Il est véritablement révolutionnaire. Mais on a un deuxième temps. Le deuxième temps, c'est quoi? C'est que nous avons un guide, c'est un peu Charles de Gaulle par rapport à Pompidou. Et d'une certaine façon, il n'est pas le même fondement, il n'est pas la même légitimité. Le guide de la Révolution par rapport à Imam Khomeini. Donc cette absence de légitimité, en fait, il est très très important. Lui, il le dit très bien dans la réunion où on va le désigner. Il va dire que c'est vraiment, il faut pleurer pour une révolution qui va avoir recours à un étudiant en tant que guide. On lui rétorque tout de suite quelque chose qui est très très intéressant en disant, ne vous inquiétez pas, une fois que vous êtes nommé guide, les autres sont obligés de se soumettre à vous.
La légitimité viendra de la fonction d'une certaine manière.
Mais attendez, simplement, La fonction, c'était quoi? La fonction, c'est que ce sont, à partir de ce moment-là, les institutions qui ont légiféré pour les pratiques religieuses, ce sont les institutions étatiques. L'Assemblée des experts et le Conseil de surveillance de la Constitution ont pris le devant de la scène au détriment des clergés de Hosé pour légiférer les pratiques religieuses et les transformer en pratiques étatiques. Donc, ce n'est plus le but de transcendance, c'est le but des pratiques et il faut se soumettre, voilà, obligation étatique.
Armin Arefi, évidemment, c'est le fait qu'il y ait comme ça deux moments dans cette République islamique va transformer en profondeur justement ces espaces de négociation et les modalités de la négociation entre la société iranienne d'un côté et les autorités de l'autre, Armin Arefi.
Moi, je pense que le vent de changement en Iran est véritablement arrivé avec l'élection surprise à la présidence du président réformateur Khatami.
Khatami en
1997. Ouais. À partir de ce moment-là, justement, il y a eu un véritable espoir de la population. Il y avait eu des promesses, quand même, en termes de libéralisation sociale, également économique. Et ce qui a d'ailleurs nourri la déception, parce que ce président de la République avait vu ses actions être quand même contrecarrées par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ce qui a nourri une désillusion de la population et a provoqué une abstention et derrière l'arrivée de Mahmoud Ahmadinejad. J'ai l'impression que là-dessus, on revit à peu près la même chose avec Hassan Rouhani. C'est-à-dire que Hassan Rouhani a quand même, durant sa campagne présidentielle en 2013, eu des propos en direction des jeunes où il leur parlait de libéralisation, y compris, je crois, d'accoutrement. Alors, il ne s'agissait pas directement de parler de port du voile ou d'autres questions, mais on parlait justement d'une certaine libéralisation. Depuis l'arrivée de Rouhani, effectivement, dans les rues de Téhéran, je peux en témoigner dans mon livre « Un printemps à Téhéran » qui sort demain, qui n'est pas encore sorti.
J'ai dit qu'il venait de sortir, il n'est pas encore sorti, absolument.
C'est vrai qu'on voit beaucoup moins la police des mœurs, on voit beaucoup moins les miliciens Basiji, ceux qui étaient les auteurs de la répression du mouvement contestataire de 2009, le fameux mouvement vert. Maintenant, il y a aujourd'hui à nouveau cette déception de la population vis-à-vis
De ce président qui n'a pas respecté nombre de ces promesses-là.
Fariba Adelka, il a raison, Armin Arefi, quand Khatami arrive au pouvoir en 1997, les femmes s'imposent de plus en plus dans le paysage, mais on peine effectivement à obtenir des avancées législatives, comme si finalement la société était en avance sur les lois et les institutions et que ces dernières étaient incapables en réalité de comprendre les mutations qui étaient en train de se jouer. Est-ce que vous diriez que c'est un peu la même chose aujourd'hui avec Hassan Rouhani?
Oui, disons, cette avancée de la société par rapport au pouvoir, je crois qu'il faut vraiment le souligner. Ça a été le discours de Shamsul Voisin, donc le grand journaliste des journaux réformateurs. Et en fait, la société était toujours en avant. Et c'est la particularité des hommes politiques en Iran qui surfent un peu sur les dynamiques de la société. C'était la fille de Hashemi Rafsanjani qui a fait du sport pratiquement le terrain de ses interventions. Elle était beaucoup plus révolutionnaire que les réformateurs, d'ailleurs, tout en étant effectivement reconstructeur, comme on l'appelait. C'est elle qui a posé, c'est la seule personne dans le régime qui a posé la question de la liberté de s'habiller pour les femmes. Et elle allait effectivement beaucoup plus loin, la liberté de demander la main des hommes, etc. Mais je veux dire qu'elle était effectivement quelqu'un qui se souciait des femmes, alors que le mouvement de la réforme, il a absolument pas voulu aborder la question du voile. Puisque vous dites les jeunes et les femmes, d'une certaine façon, ça relève aussi de ce conservatisme de la société iranienne,
mais
bien sûr.
C'est une ligne rouge aussi, également, au même titre
que
la critique
du guide. Attendez, ce n'est pas plus rouge que le statut de guide de la révolution dont tout le monde est en train de parler, oui, et puis qu'on piétine la photo de l'ayatollah Khamenei, etc. Je veux dire que pourquoi celui-ci... D'accord, c'est une ligne rouge, mais pourquoi pas un mouvement que ça serait sur les réseaux, par exemple, sociaux, puisque vous en parlez, ou à l'étranger, que les moudjahidines le posent, bien sûr, ils ne pourraient pas. Peut-être des royalistes le posent, mais personne ne le pose. Mais je veux dire que la question du voile est beaucoup plus... C'est pas que les gens sont d'accord, mais il est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Pour en parler, d'abord, il n'y a absolument pas d'unanimité pour en faire une force politique, c'est tout simplement ça. Après, l'histoire de voile, il a traversé vraiment des...
Mais on revient inexorablement à la question du voile. C'est pas moi qui vous y ai emmené.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est le fameux... Aujourd'hui, le débat, il y a véritablement un débat politique en Iran qui existe, féroce même parfois, entre les tenants de la réforme, le réformateur ou de la modération, comme le président Rouhani, qui était lui-même ancien conservateur, et les ultra-conservateurs, dont fait partie d'ailleurs le guide suprême, même si lui a davantage un rôle d'arbitre. Mais le pouvoir judiciaire en Iran est en main des conservateurs, les services de sécurité également. Maintenant, je pense que cette question étant quand même un symbole, c'est encore trop tôt pour les hommes politiques, ou en tout cas qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas le courage d'évoquer publiquement cette question. Mais il faut rappeler que le débat en Iran, c'est un débat quand même qui est encadré par les lois de la République islamique. Alors, aucune personne en Iran aujourd'hui à la télévision d'État va ouvertement parler du port du voile, sinon il devra faire face à de nombreux problèmes. C'est ça aussi la problématique. Quant à la question du voile à l'étranger, moi je pense que ce qu'a fait la journaliste Massi Alinejad, il ne s'agit pas de juger, mais je vais le faire pour le coup, c'est un coup de maître car elle a mis une véritable épine dans le pied des mollahs.
Ça a permis à quoi? Ça a permis au pouvoir d'élargir son champ d'intervention, parce que du coup, aujourd'hui, les mercredis en Iran, c'est le mercredi blanc, on appelle. Ouais. Toutes les jeunes filles portent le foulard blanc parce qu'au mode, mais pas parce que Massi Alinejad. Ça fait partie de mode, du coup, on les porte.
Mais en guise de contestation.
Pas du tout, c'est la mode. C'est un champ de compétition entre les petites jeunes filles entre 15 et 25 ans. C'est un peu ça. Je veux dire qu'à partir de là, on pourrait dire que les filles de la révolution et le voile de Massi Alinejad, bravo, on est en train d'aller dans le sens du pouvoir parce que finalement, le voile, il l'a imposé et du coup on est en train de verser, de élargir un peu son champ d'intervention avec toutes ces formes de pratiques.
Fariba Adelka, Armin Arefi, on va continuer, mais parlons un peu d'amour.
Parlons un peu d'amour.
Ah, oui. Vous disiez tout à l'heure, Armin Arefi, qu'effectivement, vous aviez été particulièrement frappé à votre retour en Iran de voir que tout le monde était connecté à Internet. Et vous expliquez très bien dans votre livre que le cyberespace, c'est un espace absolument incroyable où la drague est quasiment un sport national. Mais au fond, c'est un sport national tout court qui va même bien au-delà du cyberespace lui-même. Vous écrivez, vous, Fariba Adelka, à propos des relations amoureuses dans votre livre, je vous cite, « L'amour s'affiche de façon croissante dans l'espace public. » Attitude impensable sous la monarchie, mais aussi pendant la première décade de la République islamique, les couples d'époux ou de fiancés se tiennent désormais ostensiblement par la main dans la rue et les parcs. Bien sûr, les liaisons dites illégitimes ne peuvent s'afficher de la sorte, mais pour combien de temps encore? Ça, le domaine des relations amoureuses, c'est un champ dans lequel les choses ont énormément changé. et où il se négocie énormément de choses. On va parler du mariage temporaire dans un instant. Mais c'est un domaine où les choses ont considérablement changé,
oui,
en 40
ans. Alors
c'est
vraiment un des aspects sur lequel j'ai parlé tout à l'heure. Comment finalement la discrimination, cette obligation de voile, etc., a eu des side effects, enfin les effets, comment
collatéraux.
On dit ça, collatéraux. Ça veut dire à partir du moment où les jeunes sont légitimes l'une de l'autre, et du coup, toutes les pratiques sont permises. Vous portez le voile, à partir de ce moment-là, l'espace public s'ouvre à vous. Donc du coup, les jeunes mariés, fiancés, etc., dès qu'ils ont une certaine légitimité de relation au regard de leur famille, ils investissent l'espace public pour montrer qu'ils sont ensemble. Donc, les attouchements des mains, etc. Donc, les salles de cinéma obscures, effectivement, c'est une autre occasion de se rapprocher. Donc, l'expression du corps, il n'a jamais été aussi fort.
Et l'expression de la sexualité aussi. Vous dites, l'un des paradoxes, vous dites, l'une des idées reçues, c'est dire que le sexe, la sexualité est un tabou en Iran. Vous dites, c'est pas vrai.
Quand c'est légitime, effectivement, c'est tout le monde en parle. Le clergé en a toujours parlé. Il fait de la sexualité le terrain de son intervention de prédilection.
Armin Arefi, en Iran, le sexe en dehors du mariage est évidemment proscrit. Mais pour contourner cette interdiction, les Iraniens ont trouvé une solution. C'est les mariages temporaires, le ciré en Iran. C'est comme ça qu'on appelle ça. Qui permettent évidemment donc à ces couples de vivre leur amour sans nécessairement se marier. On a une idée d'abord de l'ampleur de ce phénomène en Iran. Vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage.
Il faut faire quand même la distinction. Alors, en Iran, on parlait justement des unions légitimes. Le ciré, le mariage temporaire, c'est justement la solution du régime pour légaliser les unions dites illégitimes. C'est-à-dire, en Iran, d'après le droit chiite, vous pouvez vous marier pour une durée allant de 1 heure à 99 ans. Sauf que les Iraniens, la société iranienne, le considèrent très mal. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est une forme déguisée de prostitution. Et moi, ce que j'ai vu, ce qui m'a marqué il y a 10 ans, ce qui m'a encore plus marqué aujourd'hui, c'est qu'en Iran, c'est une population jeune, éduquée, qui a été séparée durant toute sa scolarité, qui se retrouve après le bac, pour ceux qui étudient. Et il y a un nombre de couples en Iran assez monumental, y compris avant le mariage, ce qui est officiellement proscrit par les autorités islamiques. Il y a un nouveau phénomène qu'on appelle le mariage blanc. Alors ça n'a rien à voir avec son homologue français, c'est-à-dire qu'on a un nombre grandissant, pas majoritaire, mais grandissant de couples dans les grandes villes, qui décident de vivre ensemble, de cohabiter ensemble sous le même toit, sans être unis par les liens du mariage. Ça pourrait paraître normal en France, mais ça ne l'est pas du tout en Iran. Pourquoi ? Parce que, un, c'est interdit par les autorités, mais cette jeunesse justement transgresse, ce ne sont pas les lois islamiques, mais c'est surtout le quand dira-t-on et les traditions familiales. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui en Iran, il est toujours très mal vu pour un père tout réformateur qu'il soit ou même opposé à la République islamique que sa fille ait une relation extra-conjugale avant le mariage. Sauf qu'aujourd'hui, on a une jeunesse, encore une fois, éduquée. Les femmes sont majoritaires à l'université. Il faut maintenant que les couples travaillent, c'est-à-dire que les deux membres d'un couple travaillent, que ce soit après le mariage ou même avant le mariage, et du coup, les mœurs changent, et la République islamique est obligée de s'adapter. D'ailleurs, elle rappelle aux jeunes que, écoutez, il y a des difficultés économiques, car les jeunes, aujourd'hui, en Iran, se marient beaucoup moins, parce qu'il y a la tentation de la relation avant le mariage, ce qui est aujourd'hui une réalité en Iran. Il y a aussi les difficultés économiques pour subvenir aux besoins d'un couple, comme en France, d'ailleurs, et ils consentissent de plus en plus, justement, à ces unions, entre guillemets, légitimes. D'ailleurs, les autorités, donc, pour enrayer ce phénomène, leur répondent, écoutez, nous avons la solution, le mariage temporaire. Et là, la population, la société iranienne lui répond, non, parce que ça, pour nous, c'est une forme de prostitution. D'ailleurs, il suffit d'aller faire un tour dans les villes saintes comme Mashhad ou même Qom pour voir le nombre, la prostitution qui utilise ce phénomène permis par les autorités.
Fariba Adelka, c'est intéressant ce que nous dit Armin Arefi sur le ciré, le fameux mariage temporaire, parce qu'on pourrait penser que c'est au fond une solution, un outil qui aurait été trouvé par la société, par les Iraniens, les Iraniennes eux-mêmes, pour justement vivre leurs relations. Or, il nous dit, c'est au fond les autorités cléricales qui proposent cette solution d'une certaine manière. Comme si là, pour le coup, c'était les institutions, l'autorité religieuse qui étaient en avance finalement sur la société. Il y a quelque chose de très étonnant là, Fariba Adelka.
Oui, parce que c'est en temps de crise économique et le coût de mariage, en fait. Les gens vivent des années pour investir, justement. C'est l'événement le plus important en Iran, en fait. On fait tourner des films 1000 et une nuits, finalement. Le coût de mariage étant très élevé, les gens ne peuvent plus se marier, surtout les filles qui n'ont pas été mariées jusqu'à l'âge de 30 ans, elles n'ont plus aucune possibilité de se marier, ce qui fait qu'on les voit de plus en plus se mettre avec des jeunes garçons. Ça veut dire les filles de 30 ans avec des jeunes garçons de 25 ou 30 ans, quelque chose comme ça. Les filles de 40 ans avec des jeunes avant 30 ans. Donc la crise économique, ce qui m'impressionne dans les propos de Armin, c'est cette république qui finit toujours par s'adapter. J'aime beaucoup cette expression parce que finalement, on comprend que cette république, elle est dure sur bien des aspects, mais qu'elle finit par prendre la mesure de la société, mais, de la réalité.
Mais vous n'y croyez pas à ça?
Non, j'aime bien. Je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça très bien. Parce qu'en fait, la République s'adapte en temps de crise économique très, très important. Mais d'abord, et de l'autre côté, d'un point de vue religieux, le ciré a une légitimité. Les gens qui s'installent dans le mariage blanc, en fait, ils passent par le ciré. C'est la forme de ciré, même s'ils ne le disent pas, puisque socialement, c'est mal vu, ce contrat. Mais en fait, si on suit l'imam Khomeini, le ciré, c'est quoi? Le ciré, c'est deux personnes qui se regardent l'un dans les yeux de l'autre et que tous les deux sont en position de nouer un mariage. Ne me regardez pas comme ça, parce que je vais le prendre mal. Et qui sont en mesure et en situation de conclure un mariage. Et voilà que c'est fait. Ça veut dire que ça se passe de commentaire, la liberté absolue de décider de ça. Donc si vous vous mettez dans certaines, si vous voulez, dans ce genre d'explication, d'interprétation de la loi religieuse de Ciré, ben, c'est la pratique la plus courante. Et que vous pouvez toujours dire au gardien ou au voisin qui vous regarde mal, eh ben, je suis ciré, donc vous êtes légitime. C'est un terrain de légitimité, ce mariage blanc. Si les gens s'installent, c'est que la légitimité suit et que socialement, on n'a pas à avoir honte de cette relation. Voilà. Moi, je trouve que la République s'adapte, mais les religieux se sont toujours adaptés avec ces gens de...
Moi, je trouve que
Armin Arefi, en quelques mots, parce qu'on va retrouver une nouvelle invitée.
Moi, je trouve en fait qu'elle n'a pas d'autre choix que celui de s'adapter.
C'est magnifique quand on dit pour un gouvernement comme l'Iran qu'il n'a pas d'autre choix et s'assumer. Mais je trouve ça très beau.
Oui, c'est très beau. Sauf que
nous sommes là.
Non, bien sûr.
L'affaiblissement, la crise.
Bien sûr. Mais c'est quand c'est la population qui, par sa pression, par plein d'initiatives, dont le voile, qui pousse les religieux à une certaine manière s'adapter, c'est d'un côté un bon signe, mais de l'autre côté, le régime n'a pas d'autre choix. Et d'ailleurs, s'il veut subsister, il n'aura d'autre choix que de se réformer. La question véritable que je me pose, c'est ce régime peut-il se réformer? Peut-il s'adapter face à une demande populaire extrêmement importante et une crise économique extrêmement importante, énorme, qui est aujourd'hui le principal sujet.
Vous m'obligez à donner la parole à nouveau à Farid Badelka. On va faire encore patienter Leila Fouladvine qu'on va avoir dans quelques instants. Est-ce que le régime peut se réformer? Et moi, je vais aller un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'il peut se réformer sous l'effet, justement, de la pénétration des femmes dans le paysage politique, qui est réel? Il y a une vraie montée en puissance. Il y a aujourd'hui, je crois, 17 ou 18 députés. Est-ce qu'elles peuvent, de l'intérieur, transformer la région?
Vous voyez des ministères qui sont les plus esclérosés, comme le ministère de l'Intérieur. Récemment, ils ont eu des lois administratives à l'intérieur. Ils ont été obligés de céder 30% des postes de responsabilité à des femmes, ce qui fait que vous rentrez dans un gouvernorat inhabituel dans le passé et que vous voyez à la tête, par exemple, de départements de relations publiques ou de services sociaux, etc., vous voyez des femmes. Donc ça, vraiment, que la République est en train d'intégrer, effectivement, dans son corps, plus de femmes dans les postes de décision. Par exemple, ici à Paris, vous avez le troisième conseiller, au bout de, je ne sais pas, 40 ans, la première fois, le troisième conseiller de l'ambassade de France, l'ambassade de l'Iran à Paris, est une femme. Qui est d'ailleurs une fille de diplomate de sous le Shah d'Iran, c'est magnifique. Donc,
et d'ailleurs, y compris dans le monde économique, il y a de plus en plus de hauts responsables d'entreprises qui sont des femmes. Par exemple, je crois Iran Airlines, je crois que la PDG
est une femme. Voilà.
C'est vous qui en parlez dans votre livre, je crois.
Effectivement, tout à fait. Ouais. Maintenant, encore une fois, c'est la pression des femmes qui provoque le changement et pas l'inverse.
Parlons roman, si vous voulez bien. On va retrouver Leila Fouladvine. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, traductrice, vous avez fait une thèse sur la place des femmes iraniennes dans l'espace public post-révolutionnaire à travers les œuvres de 8 romancières contemporaines d'Iran. Il y a question des ambiguïtés du statut féminin dans une société en pleine mutation, évidemment, mais à travers le roman, 8 écrivaines. Alors je vais les nommer, j'espère que je vais prononcer correctement. Farkhondeh Aghaei, Tareh Alavi, Fatane Hajj Seyed Javadi, Charnouche Paris
Parsipour, pardon, Zoya Pirzad, Moniro Ravanipour, Parinouche Sani et Fariba Vafi. D'abord, comment est-ce que vous avez sélectionné ces femmes qui ont fait l'objet de ces thèses? Pourquoi ces romancières en particulier?
Alors, en fait, bien évidemment, j'ai consulté les spécialistes, notamment Madame Oura Yavari, qui m'a beaucoup aidée pour choisir les romancières en question. C'était mon directeur de recherche, Monsieur Kostrekavar, qui a également cadré le travail. Mais on s'est basé sur le succès. Donc le succès populaire, mais aussi le succès littéraire de ces femmes.
Donc elles ont toutes un large succès auprès du public.
Oui.
Vous dites qu'en l'espace de moins de 10 ans, entre 1997 et 2004, la littérature romanesque a été multipliée par 10. Les romancières sont aujourd'hui aussi nombreuses que leurs homologues masculins. Qu'est-ce qui a poussé au fond les femmes dans l'espace littéraire iranien? Est-ce que c'est parce qu'elles y ont trouvé au fond un espace de liberté? Est-ce que c'est parce que les auditeurs ont enfin accepté finalement qu'elles publient? Enfin, qu'est-ce qui l'explique?
Alors, les explications sont multiples, mais pour être brève, je dirais que il est très facile de se mettre, même quand on est une femme au foyer, à écrire, parce que écrire n'impose pas de grosses dépenses, et c'est une activité qui se fait dans l'intimité. Après, c'est une fois que l'écriture est mise à la disposition des lecteurs, donc le fait de rendre public une œuvre fait que les normes socioculturelles peuvent être complètement bousculées, ce qui a été fait d'ailleurs, et ce n'est pas que dans le domaine littéraire, bien évidemment l'art, le cinéma en général, enfin on trouve ça un peu partout, ce qui est peut-être intéressant ce qui ressort également du débat des amis intervenants, donc ces tensions multiples qui sont au sein de l'espace public et l'espace privé, je dirais que le rapport entre le privé et le public est si étroit que les différents politiques idéologiques et philosophiques, mais aussi les rapports conflictuels de genre, persistent dans les deux espaces. Et donc, le fait que la femme écrit et rend public l'intimité, très souvent l'intimité familiale, conjugale, a permis finalement de se faire une place de plus en plus, on va dire, non seulement concrète, mais aussi à l'heure actuelle, ce n'est pas que le nombre des femmes qui impressionnent, c'est aussi les sujets qui sont traités par les femmes qui
impressionnent. C'est-à-dire, quels sont ces sujets justement de prédilection?
Alors, on va dire que l'individualité grandissante des Iraniens est au cœur du domaine culturel, que ce soit littérature ou autre. Et donc, le fait de mettre en avant cette individualité, qui est d'abord féminine, mais parfois aussi l'individualité masculine est traitée dans les romans et les nouvelles, permet de lancer un débat au sein de la société civile, qui est de plus en plus demandé.
Auxquels participent les hommes? Je veux dire, vous parliez tout à l'heure des lecteurs. Est-ce que les hommes lisent justement ces livres en particulier et participent justement de ces débats?
Bien sûr. Ouais. Après, on va dire que en ce qui concerne mon travail, les romancières que j'ai étudiées étaient extrêmement lues par les femmes de la classe moyenne. Mais une fois qu'elles ont été primées, elles ont bien évidemment attiré l'attention de tout type de lecteurs. Et aujourd'hui, je pense que la question surtout en Iran, parce que l'Iran est un pays où la littérature a un poids, le patrimoine littéraire en Iran est extrêmement puissant. Et donc, les poètes, vous savez, les poètes iraniens à renommée internationale sont nombreux. L'attachement de la société à la poésie est extrêmement ancré. Donc, il y a aussi la question de l'orature et donc toute forme de transmission orale de la littérature qui fait que tout le monde est intéressé par la littérature. Je pense que l'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple des présidents iraniens qui a culture inégale évidemment, pour commencer ou pour finir leur communiqué, ben, en fait, utilisent les poèmes. Et c'est rare de voir qu'un président français commence ou termine ses phrases en citant Baudelaire. Donc, c'est pour dire que la littérature et la poésie en Iran a une place
Mais tout à fait à part, absolument. Oui. Je voudrais faire réagir Fariba Adelka, qui brûle d'impatience de réagir. Fariba.
Non, je trouve très intéressant. Merci, Leïla. Mais en même temps, elle le dit d'ailleurs très très bien, comment finalement la littérature devient une opportunité de négocier là où finalement on n'arrive pas à le faire dans l'espace public ou par ailleurs, si vous voulez, de négocier sa liberté par ce champ qu'il est en train comment elle explique finalement l'espace privé qu'on investit de l'un à l'autre. Il y avait une revendication avec la Révolution qui était justement de cet être moderne. Être moderne, c'était un homme nouveau qui pouvait négocier entre espace privé et espace public, en fait. Et on le voit dans le mouvement révolutionnaire, comment on passe de l'un à l'autre, finalement, cette liaison entre l'espace privé et public. Et là, je vois très bien que Leïla est en train de reposer la question de cette circularité entre les deux espaces, et cette fois-ci par la littérature, et c'est très intéressant.
Armin Arefi, réaction. En guise de conclusion, on arrive au terme, malheureusement, de cette émission. Il y avait encore mille et une choses à évoquer.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui revient depuis le début, justement, c'est l'avancement de la population, de la société iranienne par rapport à son régime, dont les lois reste à mon sens rétrograde, même s'il sait s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, en cette période notamment géopolitique très intense où l'Iran, la République islamique est sous pression, le régime dans son ensemble va devoir lâcher du lest s'il compte subsister et laisser sa population respirer, parce que sur le plan de vue économique, la situation est catastrophique et qu'on assiste, comme d'ailleurs je le dis dans mon livre, à une fuite malheureusement actuellement de beaucoup de cette jeunesse iranienne qui quitte le pays.
Il y a juste plus que le régime, donc il y a des débats à l'intérieur. Si le gouvernement devient flexible, c'est qu'à l'intérieur, il y a un débat et que ces débats-là pèsent à un moment ou à un autre.
Merci beaucoup. En tout cas, elle est là, Fouladvine, d'avoir été avec nous. Je rappellerai pour les auditeurs, pour aller plus loin dans les réflexions qu'on a eues ce matin, les mots et les enjeux, le défi des romancières iraniennes qui était paru chez L'Harmattan. On l'a choisi un petit peu pour vous, Saghiya de Sassi, Armin Arefi, parce que vous en parlez dans votre livre.
J'ai beaucoup dansé dessus, dans les apparts, mais également dans la voiture, alors qu'à l'extérieur...
C'est un énorme tube, beaucoup, écoute ça, et quand on voit les clips, on a l'impression de voir un clip américain.
Exactement, même s'il faut savoir que le compositeur et le chanteur a été obligé de quitter l'Iran pour faire ça, mais qu'il fait vibrer ses compatriotes. Moi-même, j'étais justement dans une voiture avec une Iranienne qui dansait sur cette chanson, mais depuis assise derrière son volant. Une danse iranienne, avec les mains et le corps.
Merci infiniment, Armin Arefi. Donc, ce livre, Un printemps à Téhéran, La vraie vie en République islamique, qui paraît chez Plon. Donc, demain, je pensais que c'était déjà sorti, c'est demain.
On sait demain.
Demain, Fariba Adelka, un grand merci également à vous. Les paradoxes de l'Iran chez Cavalier Bleu. Tiens, j'en profite d'ailleurs demain aussi. On parlait de romancière à l'instant. Demain, un événement dans une librairie à Paris, la librairie du Thiers Mitre Cujas, autour de l'œuvre de Farangis Habibi, sociologue, journaliste et écrivaine, à l'occasion de la parution de son ouvrage, son dernier ouvrage, La guerre m'a parlé de loin, c'est chez Stock. Ça sera demain. Non, c'est aujourd'hui que ça sort d'ailleurs. Donc voilà, on parlait de sociabilité. La sociabilité, elle peut aussi se faire. Elle se fait évidemment autour de la littérature et dans les librairies. Et d'ailleurs également à Téhéran. Je parlais de Paris, mais ça se fait aussi du côté de Téhéran. Merci infiniment à tous les deux. On reprendra notre série consacrée à l'Iran demain à 11h sur France Culture. Mais d'abord, Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors les foules sont-elles irrationnelles et stupides? A contrario, existe-t-il une intelligence collective capable de résoudre des problèmes trop compliqués pour les experts eux-mêmes?
Oui, la question a été débattue depuis des siècles, mais elle prend un sens très nouveau dans le contexte actuel de rébellion des masses contre les élites, de duel entre ochlocratie, gouvernement par la foule, et méritocratie, pouvoir des mandarins. Mais pour en venir à l'actualité nationale la plus chaude, c'est une question réactivée par le grand débat national. Qui nous garantit que les impressions recueillies auprès de millions de Français sur des sujets aussi complexes que la politique fiscale ou l'organisation des pouvoirs publics vont permettre de faire émerger les solutions les plus judicieuses, les mieux adaptées à la situation actuelle de notre pays. Eh bien, l'université de St. Andrews en Écosse vient de rendre publique une étude menée à ce sujet au sein de son département de biologie. Selon son responsable, Wataru Toyokawa, cette étude, je cite, « démontre que les comportements irrationnels grégaires ont tendance à se manifester quand la taille du groupe de référence augmente, ainsi que s'accroît le niveau de difficulté des problèmes à résoudre ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'au-delà d'un certain nombre de participants, les membres d'un groupe ont tendance à se conformer à ce qu'ils pensent être l'avis de la majorité, plutôt que d'essayer de prendre connaissance par eux-mêmes des données d'un problème. Et Wataru Toyokawa écrit « Les foules humaines peuvent être affectées de folie collective quand des connaissances invalides, voire nuisibles, deviennent virales. » Et bien, c'est le genre de comportement dangereux qu'on observe notamment lors de la formation de bulles financières sur les marchés, et c'est évidemment le risque que nous font courir les nouveaux médias numériques. Entrent alors en jeu le conformisme et l'imitation. Avant de choisir un restaurant ou un candidat aux élections, nous cherchons à savoir ce qu'en pensent les autres et nous avons tendance à mettre de côté ce que nous savons pour nous fier à cet avis des autres. Or, ce sont en règle générale les plus extrémistes et les plus bruyants qui se font le plus entendre. Et on les confond donc avec l'avis de la majorité parce que la majorité, elle, préfère se taire. Les abeilles aussi sont des animaux sociaux. Elles manifestent une réelle capacité à prendre des décisions collectives. Le fameux biologiste autrichien Carl von Frisch l'avait observé au XIXe siècle. Lorsqu'une abeille a déniché une source d'alimentation, elle revient à la ruche en frétillant des ailes. Plus cette danse dure longtemps, plus elle signale à ses congénères que la source est abondante. Eh bien, notre problème à nous, heureux ressortissants du XXIe siècle, c'est la puissance inégalée des moyens de communication dont nous disposons. Certaines folies collectives peuvent prendre des dimensions virales à cause des réseaux sociaux.
Pourtant, Brice, certains intellectuels persistent à miser sur l'intelligence collective.
Oui, c'est le cas notamment de Geoff Mulgan, qui fut l'un des principaux conseillers politiques de Tony Blair et de Gordon Brown. Il est également le cofondateur du think tank britannique Demos. Et il vient de publier un essai intitulé en anglais « Grand esprit, comment l'intelligence collective peut changer notre monde ». La lettre confidentielle Phoebe de cette semaine rend compte de cet ouvrage sous la plume de Pierre Schweitzer, que je cite. « L'engouement pour l'intelligence collective vient du constat contre-intuitif selon lequel l'agrégation d'avis d'individus autonomes, nombreux, variés et ne se connaissant pas, dépasse très largement la capacité des plus excellents experts d'un domaine donné. » C'est évident, par exemple, lorsqu'il s'agit d'opérations simples, telles que l'évaluation, figurez-vous, du nombre d'un bonbon dans un bocal. Mais ça l'est également face à des opérations beaucoup plus complexes, comme par exemple de préconiser le meilleur coup à venir aux échecs. Dans les cas où il s'agit d'apporter une réponse précise à une question précise, on peut miser sur l'intelligence collective, car les différentes réponses peuvent être facilement agrégées. Mais pour que l'intelligence collective puisse agir efficacement, plusieurs conditions doivent être réunies d'après Geoff Mulgan. En particulier, l'existence d'un cadre conceptuel commun porteur d'une même vision du monde, un constat de base partagé sur la nature des problèmes à résoudre. Et pour que fonctionne cette intelligence collective, 5 clés sont encore nécessaires. Ce qu'il appelle des communs autonomes, c'est-à-dire des éléments de connaissance qui ne soient pas soumis à une autorité extérieure ni à des censures quelconques. Un équilibre raisonnable entre les différents éléments composant cette intelligence collective. Que le groupe ait conscience que certaines dimensions du problème sont subalternes et ne méritent pas d'être prises en compte. Un retour d'expérience honnête et transparent. Enfin, je cite, « La capacité à mettre de côté la complexité qui a servi à la réflexion au profit d'une simplicité qui favorise les actions concrètes. »
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.